Source fichier image de Google Books. La vie de Margaret Fox, épouse de George Fox, compilée d'après son propre récit, et d'autres sources et un choix de ses épîtres, etc. Publié en 1859. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour renvoyer à un passage des Écritures ou à un détail dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez changer et mettre à jour afin de voir la version de la Bible que vous préférez. Préface de l'éditeur du site Margaret Fox est généralement reconnue par tous sauf par elle-même, comme ayant été la mère de l'église des premiers Quakers. Son foyer, le manoir de Swarthmore, fut véritablement le berceau des débuts Quakers. Swarthmore fut le refuge de nombreux amis éminents des premiers temps, qui y venaient pour se ressourcer, grandir, communier, s'inspirer et sans doute, se reposer de leurs épreuves physiques, car les épreuves et les persécutions furent nombreuses aux premiers jours dans le nord de l'Angleterre, où les Quakers s'établirent d'abord. Parfois, on y trouvait des personnes venues de 5 pays différents pour apprendre et grandir. Elle avait été transportée dans le royaume de Dieu. Elle est comptée parmi les 60 vaillants, cette première vague de ministres suscités par le Seigneur, ayant entendu la parole de vie de George Fox. Elle eut 9 enfants de son premier mari, le juge Fell, un grand soutien des Quakers. 11 ans après la mort du juge Fell, elle épousa George Fox, à qui le Seigneur avait ordonné de l'épouser. Ainsi, celui qui est généralement reconnu comme le père des Quakers s'unit à celle qui en était déjà la mère. Bien qu'ils n'aient pas pu passer beaucoup de temps ensemble, leur amour l'un pour l'autre fut grand, et George Fox, déjà père spirituel honoré et chéri de ses enfants, devint aussi leur cher beau-père au sens propre. Tandis que George Fox continuait de parcourir le monde dans son ministère, en raison des responsabilités de sa maison et de sa famille, Margaret consacra l'essentiel de son temps à leurs soins et à l'entretien de la communion de Swarthmore et d'autres communautés dans le nord de l'Angleterre. Elle passa au total 10 ans en prison. Fox lui-même en passa 6 ans et demi, ce qui l'amena à commenter qu'il n'y avait jamais eu en Angleterre plus grande injustice que l'emprisonnement de Margaret et la spoliation de ses biens, astérisque surtout si l'on considère que sa position se rapprochait de la petite noblesse. Comme beaucoup de premiers Quakers, elle fut traduite en justice sur une accusation relativement mineure, puis emprisonnée de façon flagrante et privée de ses biens pour avoir refusé de prêter serment ou de jurer, comme le Christ et l'apôtre Jacques l'interdisaient. Pourtant, après son emprisonnement, son zèle demeura indompté, tandis qu'elle servait ce qui restait en prison, et tandis qu'elle continuait d'adresser de respectueuses requêtes aux différents rois de son époque. Ses démarches prirent la forme de nombreuses lettres, ainsi que de plusieurs audiences personnelles auprès des rois, ce qui exigea un long et pénible voyage de sa demeure à Londres et retour, qu'elle fit 7 fois. Elle fut remarquable dans son service et son amour envers les premiers amis et envers son maître et roi bien-aimé pour toujours, le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ses enfants, jouissant de l'héritage éternel, devinrent eux aussi ministres du Christ. Astérisque Cambridge Journal, vol. I, page 169. Préface de l'auteur. Les premiers Quakers comptèrent dans leur rang de nombreuses femmes éminentes, qui ont énoncé et expliqué leur doctrine et témoignages, tant par leur ministère que par leurs écrits, et ont illustré leur foi chrétienne par la cohérence de leur vie et de leur conduite, ainsi que par leur patience sous la persécution. Parmi elles, aucune ne brilla plus manifestement, au premier jour de la société, que Margaret Fox. Convaincue par la prédication de George Fox, elle devint un membre fidèle de l'Église, son influence et sa réputation dans la communauté, de même que son ministère et ses écrits, contribuèrent grandement à faire progresser la cause de la vérité. Comme prédicatrice de l'Évangile, elle était fervente et profonde, comme auteur, hardie, sincère et persuasive, par son tempérament charitable et hospitalière, et pleine de compassion pour les affligés et les persécutés. Ses œuvres étant depuis longtemps épuisées et presque inconnues dans ce pays, on pense que la compilation suivante, présentant un bref récit de sa vie, un choix de ses épîtres et quelques extraits de ses autres écrits, sera accueilli favorablement par le lecteur. Vie de Margaret Fox, chapitre 1614-1658. Sa naissance, filiation, épouse Thomas Fell et s'établit à Swarthmore. Vie religieuse, visitée par George Fox, elle et ses enfants convaincus. Mécontentement de son mari, lettre de Richard Farnsworth. Réconciliation du juge Fell et établissement d'une réunion à son domicile. Témoignage d'Anthony Pearson et William Caton sur le caractère exemplaire de la famille. Mort de son mari, son caractère. Lettre de condoléances d'Anthony Pearson. Leur enfant Margaret. Elle était la fille de John Askew. Issu d'une famille ancienne et honorable, il était honnête, pieux et charitable, et un homme de fortune et d'instruction. Elle se maria, dans sa 18e année, avec Thomas Fell, de Swarthmore, avocat au barreau, puis juge de paix du quorum dans son comté, membre de plusieurs parlements, vice-chancelier du comté palatin de Lancaster, et aussi juge itinérant dans le circuit de Westchester et du nord du pays de Galles. Une stricte intégrité et l'amour de la justice, tempérés par la miséricorde et la modération, étaient des traits marquants de son caractère. Dans la 76e année de son âge, elle rédigea une brève notice biographique retraçant quelques-uns des principaux événements de sa vie, qui a été largement utilisée dans la préparation de cet ouvrage, et dans laquelle, parlant de son mari, elle dit « Nous vécûmes ensemble 26 ans, pendant lesquels nous eûmes 9 enfants. Il fut pour moi un époux doux et aimant, et un père tendre pour ses enfants, et quelqu'un qui cherchait Dieu de la meilleure manière qui lui était connue. J'avais environ 16 ans de moins que lui, et j'étais de ceux qui recherchent les meilleures choses, désirant servir Dieu afin d'être accepté de lui. Je m'enquérais de la voix du Seigneur, et j'allais souvent entendre les meilleurs ministres qui venaient dans notre région. Nous recevions fréquemment chez nous beaucoup de ceux qui étaient réputés les hommes les plus sérieux et pieux, dont certains, alors, nous appelions des ministres conférenciers, et nous avions souvent des prières et des exercices religieux dans notre famille. J'espérais bien faire en cela, mais je craignais souvent d'être loin de la juste voie, et de cette manière j'ai cherché et interrogé pendant environ 20 ans lorsque, en 1652, il plut au Seigneur, dans son infinie miséricorde et bonté, d'envoyer George Fox dans notre pays, qui nous déclara la vérité éternelle telle qu'elle est en Jésus, et par la parole et la puissance du Dieu éternel, en détourna beaucoup des ténèbres vers la lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu. La nature puissante et éveillante du ministère spirituel de George Fox, et l'effet qu'il produisit sur son propre esprit, ainsi que son discours en cette occasion, elle est décrite ainsi, « Notre maison étant un lieu ouvert pour recevoir des ministres et des personnes religieuses, l'un des amis de George Fox l'y amena. Il y passa la nuit, et le lendemain, comme c'était un jour de conférence ou de jeûne, il alla à l'église d'Ulverston mais n'entra pas avant que les gens fussent assis. Moi et mes enfants y étions depuis longtemps. Et pendant qu'il chantait, avant le sermon, il entra, et lorsqu'ils eurent fini, il se leva sur un siège ou un banc et demanda qu'on lui laissât la liberté de parler, et celui qui était en chair dit qu'il le pouvait. Et les premiers mots qu'il prononça furent les suivants, « Ce n'est pas celui qui est au dehors qui est juif, et la circoncision n'est pas celle qui est au dehors, mais est juif celui qui est au dedans, et la circoncision est celle du cœur. » Et il poursuivit en disant que Christ est la lumière du monde et qu'il éclaire tout homme qui vient dans le monde, et que par cette lumière il pouvait être rassemblé à Dieu. Je me levai dans mon banc, étonné de sa doctrine, car je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant, puis il continua, ouvrit les Écritures et dit, « Les Écritures étaient les paroles des prophètes, et les paroles du Christ et des apôtres, et ce que, lorsqu'il parlait, il goûtait et possédait, il l'avait du Seigneur, et il dit, « Alors, qu'avait-on à faire des Écritures, sinon en venant à l'Esprit qui les a produites ?» Vous direz, « Le Christ a dit ceci, et les apôtres disent cela, mais vous, que pouvez-vous dire ? Êtes-vous enfants de lumière, et avez-vous marché dans la lumière ? Et ce que vous dites, vient-il intérieurement de Dieu ? Cela m'ouvrit si fort que cela me transperça le cœur, et alors je vis clairement que nous étions tous dans l'erreur. Je me rassis donc dans mon banc et je pleurai amèrement, et dans mon esprit je criai au Seigneur, « Nous sommes tous des voleurs, nous sommes tous des voleurs, nous avons pris les Écritures en parole, et nous n'en savons rien en nous-mêmes. » Cela me frappa tant que je ne puis guère dire ce qu'il dit ensuite, mais il continua en s'élevant contre les faux prophètes, les prêtres et les trompeurs du peuple. Il revint chez nous cette nuit-là et parla dans la maison parmi les domestiques, et ils furent tous généralement convaincus. J'étais saisi d'une telle tristesse que je ne savais que faire, mon mari étant absent. Je vis que c'était la vérité, et je ne pouvais la nier, et je fis comme l'apôtre l'a dit, je reçus la vérité dans l'amour d'elle, et elle me fut ouverte si clairement que je n'eus pas la moindre hésitation dans mon cœur contre elle, mais je priai le Seigneur que je puisse y être gardé, et alors je ne désirai aucune plus grande part. George Fox, décrivant les circonstances de sa visite à Swarthmoor à cette époque, après avoir rapporté les controverses avec le prêtre de la paroisse Lampitt, et ses entretiens sur des sujets religieux avec Margaret Fell et ses enfants, par lesquels ils furent en partie convaincus, dit que peu après sa conviction un jour d'humiliation observée eut lieu, et Margaret Fell me demanda de l'accompagner à l'église d'Ulverston, car elle n'avait pas totalement rejeté ce groupe de culte. Il s'agissait d'une secte puritaine calviniste que les Fell fréquentaient. Je répondis, « Je dois faire comme le Seigneur me l'ordonne. » Je la quittai donc et marchai dans les champs, et la parole du Seigneur me vint, disant, « Va à l'église après eux. » Quand j'arrivai, Lampitt chantait avec ses fidèles, mais son esprit était si impur, et le message du chant si peu adapté à leurs états spirituels, qu'après qu'ils eurent fini de chanter, je fus poussé par le Seigneur à lui parler, à lui et au peuple. La parole du Seigneur pour eux fut, « Ce n'est pas celui qui est au dehors qui est juif, mais est juif celui qui est au dedans, dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Puis, comme le Seigneur ouvrait davantage, je leur montrai qu'il était venu enseigner son peuple par son esprit et le détourner de toutes ses anciennes voies, religions, églises et cultes, car toutes leurs religions, leurs cultes et leurs voix n'étaient que des paroles empruntées aux paroles d'autrui, mais ils étaient hors de la vie et de l'esprit de ceux qui les avaient proférées. Un juge de paix nommé Sori s'écria « Emmenez-le », mais la femme du juge Fell dit aux officiers « Laissez-le, pourquoi ne pourrait-il pas parler comme n'importe qui d'autre ?» Par duplicité, le prêtre Lampit dit aussi « Laissez-le parler ». Ainsi, je pus déclarer la vérité un bon moment, jusqu'à ce que le juge de paix Sori ordonna au constable de me mettre dehors, puis je parlai au peuple dans le cimetière, avant de retourner à Swarthmoral. Margaret Fell poursuit. Et à ce moment-là, lorsque moi et mes enfants, et une grande partie de nos domestiques, fûmes ainsi convaincus et convertis à Dieu, mon mari n'était pas à la maison, étant parti à Londres. Quand il revint, et trouva la plupart de sa famille changée par rapport à nos anciens principes et convictions, dans lesquels il nous avait laissés, il fut fort surpris de notre brusque changement, car quelques personnes envieuses, nos voisins, allèrent à sa rencontre et l'informèrent que nous avions reçu de tels hommes qui nous avaient détournés d'aller à l'église, ce dont il fut très préoccupé et sembla fort troublé. Et il advint que Richard Farnsworth et quelques autres amis, qui étaient venus dans notre région un peu après George Fox, étaient alors chez nous, et ils s'entretinrent avec lui et le persuadèrent de rester calme et de peser les choses avant de faire quoi que ce soit avec précipitation, et son esprit fut quelque peu apaisé. Après les avoir entendus parler un moment, il fut mieux satisfait. Je leur demandai de rester et de ne pas s'en aller, car George Fox viendrait ce soir-là. Je voulais que mon mari les entende tous et se satisfasse davantage à leur sujet, parce qu'on l'avait si fort prévenu contre eux par des choses dangereuses et effrayantes. Alors il fut assez modéré et tranquille, et son dîner étant prêt, il passa à table, et j'entrai et m'assis près de lui. Tandis que j'étais assise, la puissance du Seigneur s'empara de moi, et il en fut saisi d'étonnement et ne sut que penser. Les enfants étaient tous calmes et tranquilles, devenus sérieux, et ne pouvaient pas jouer la musique qu'ils apprenaient, et toutes ces choses le rendirent paisible. Cette nuit-là, George Fox revint. Après le souper, mon mari était assis dans le salon, et je lui demandai si George Fox pouvait entrer, et il dit oui. George entra donc sans aucune cérémonie, traversa la pièce et commença aussitôt à parler, et la famille, ainsi que James Naylor et Richard Farnsworth entrèrent tous. Il parla aussi admirablement que je l'ai jamais entendu, et il exposa les pratiques du Christ et des apôtres, telles qu'ils les avaient vécues en leur temps. Il ouvrit la nuit d'apostasie survenue depuis les jours des apôtres, et il dénonça les prêtres et leurs pratiques dans l'apostasie. Il parla si bien que je pensais que si tous les habitants d'Angleterre avaient été présents, ils n'auraient pu nier la vérité de ces choses. George Fox raconte, peu après, le juge Fell rentra chez lui, sa femme Margaret me fit demander de revenir, et moi, me sentant la liberté de la part du Seigneur de le faire, je retournai à Swarthmoor. Quand j'arrivai, je trouvai que les prêtres et les professeurs, et le juge de paix Sori, avaient beaucoup excité le juge Fell et le capitaine Sand contre la vérité par leurs mensonges. Mais lorsque je vins à parler avec lui, je répondis à toutes ses objections et le satisfis si complètement par les Écritures qu'il fut convaincu dans son jugement. Après nous être entretenus un bon moment ensemble, le juge Fell lui-même fut aussi satisfait, et en vint à voir, par les ouvertures de l'Esprit de Dieu dans son cœur, au-dessus de tous les prêtres et docteurs du monde, et il n'alla pas les entendre pendant quelques années avant sa mort, car il savait que c'était la vérité que je déclarais, et que Christ est le maître de son peuple et son sauveur. Margaret Fell écrit à George Fox de la part de Margaret Fell, de ses enfants et de ses domestiques. Cette lettre est incluse comme témoignage de la présence et de la puissance du Seigneur en George Fox, ainsi que de l'amour qu'il inspirait à ceux qu'il conduisait au Seigneur en prononçant la parole du Seigneur dans la présence de Dieu, dans son royaume. Pour ceux qui, par envie, ne peuvent accepter l'union de Fox avec Christ dans le royaume, ces paroles paraissent emphatiques et singulières. Mais pensez, si vous rencontriez Pierre ou Paul, ne seriez-vous pas épris du Christ en eux? Rappelez-vous comment les enfants spirituels de Paul pleuraient et s'attachaient à lui, l'embrassant, lorsqu'il leur dit qu'il ne le verrait plus. Il en allait ainsi pour Fox et ses enfants spirituels, et il fut un père spirituel pour des dizaines de milliers. Pourtant, il n'encouragea jamais de telles louanges, ramenant toujours les gens au message et à leur maître intérieur, plutôt qu'à lui-même au dehors. Certains pensent que la première partie ci-dessous a été en grande partie écrite par Margaret à partir de transcriptions directes de ses enfants, Susan, 3 ans, Sarah, 10, Isabelle, 12 et Mary, 5 à Genève. Ses enfants furent tellement touchés par l'Esprit du Seigneur qu'ils abandonnèrent immédiatement leur musique et devinrent plus tard des ministres éminents dans la foi, tout comme William Caton, le compagnon de jeunesse vivant au domicile du fils de Judge, et Margaret Fell, Will Fell. Pour saisir un autre aperçu de la stature de Fox en Christ, Parcourez ces déclarations dans Déclaration de Fox depuis la présence du Seigneur. Pour George Fox, notre cher Père dans le Seigneur, car bien que nous ayons 10 000 instructeurs en Christ, nous n'avons pourtant pas beaucoup de pères, puisque c'est en Christ Jésus que tu nous as engendrés par l'Évangile un corps. 4:15. Louange éternelle soit rendue à notre Père, nous, tes petits d'un même accord rassemblés dans la puissance de l'Esprit, toi étant présent parmi nous, nos âmes ont soif de toi et défaillent après toi, et revendiquent ce droit que nous avons en toi, ô toi pain de vie, sans ce pain nos âmes mourront de faim. Ô donne-nous à jamais ce pain et prends pitié de nous, que tu as nourri des saints de la consolation. Ô notre vie, nos désirs sont de te revoir afin d'être rafraîchis et affermis, et d'avoir ainsi la vie en abondance, Jean 10:10. Que cette puissance bestiale, qui nous tient en servitude ne sépare pas de nous ta présence corporelle, toi qui règnes comme roi au-dessus d'elle, et qui te réjouirais de voir ici ta puissance royale triompher sur elle, ô notre cher Père nourricier, non, 11:12. Nous espérons que tu ne nous laisseras pas orphelins, mais que tu reviendras, bien que la tristesse soit pour un temps, la joie vient au matin, PS, 30:51. Ô notre vie, nous espérons te revoir, afin que notre joie soit pleine, car en ta présence il y a plénitude de joie, et là où tu demeures il y a des délices pour toujours, PS. 16:11. Ô toi fontaine de vie éternelle, nos âmes ont soif de toi, PS. 63:1. Car en toi seul sont notre vie et notre paix, et sans toi nous n'avons point de paix, car nos âmes sont grandement rafraîchies en te voyant, et nos vies sont préservées par toi, ô toi Père de la félicité éternelle. Ô mon cher Père, quand viendras-tu? Susan Fell, cher Père, priez pour nous, ô Sarah Fell, ô mon cher cœur, ne te verrons-nous pas encore une fois, Isabelle Fell, tu es la fontaine de vie, PS. 36:9. Mary Fell, Margaret Fell, Thomas Oltraus, intendant du juge Fell, Anne Clinton domestique, Mary Eskew domestique, Margaret Fell la fille, Bridget Fell, William Caton le compagnon vivant au domicile du fils, Will Fell, qui ne devint jamais Quake. Caton devint plus tard un grand ministre du Seigneur en Angleterre et dans les Pays-Bas européens. La seconde partie semble avoir été écrite exclusivement par Margaret Fell et s'adresse à la personne qui opprimait d'une manière ou d'une autre toute la famille et les domestiques. Mon cher cœur à moi, bien que tu aies secoué la poussière de ton pied contre celui qui ne voulait pas te recevoir et n'en est pas digne, ce qui sera un témoignage contre lui pour toujours, pourtant, tu sais que nous t'avons reçu dans nos cœurs et que nous vivrons avec toi éternellement, et que notre vie et notre joie sont d'être avec toi. Ainsi, mon cher cœur, que la puissance des ténèbres ne sépare pas de nous ta présence corporelle, ce serait pour nous peine et tourment, et surtout à cause de celui dont tu sais qu'il ne peut rien appeler sien, sinon les plaies et les malheurs. Mon âme a soif que tu viennes ici, ne fût-ce que pour 2 ou 3 jours, afin d'abattre la tromperie en lui, pour l'amour de la vérité. Et si tu ne viens pas, cela ajoutera beaucoup à notre tristesse et fortifiera la puissance bestiale. Je sais que c'est pour toi un fardeau et une souffrance, mais tu as porté nos fardeaux et souffert pour nous et avec nous, et maintenant, mon cher cœur, ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas, car la vie et la paix sont en toi. Margaret Fell, 1652 note. L'individu difficile évoqué ci-dessus n'était probablement pas le juge Fell, qui finit par se convertir et devenir Quake. Selon une note manuscrite de George Fox, après une seconde visite et le fait d'avoir secoué la poussière de ses pieds, pour avoir été rejeté, l'individu en question, que l'on pense être Thomas R.A., fut finalement convaincu de la vérité. Mise à jour, d'après la source, Undaunted Zeal, de l'été of Margaret Fell, 2003, à Rich Collection of Margaret Fell's L'été, par Elsa F. Glynn, pp. 10:11, la lettre suivante, adressée à Margaret Fell par Richard Farnsworth quelques mois plus tard, peut servir à montrer l'intérêt constant qu'il portait à sa conviction et à son établissement dans la vérité, Balby, Yorkshire, 12 mois, 1652. Chère sœur, veille à demeurer dans le conseil du Seigneur, qui abattra tout ce qui voudrait s'élever et ne te permettra de te conformer à rien, sinon à ce qui est pur. Oh, sois fidèle à ce que tu sais, et tiens-toi parfaite dans la volonté du Seigneur, et le Seigneur te gardera dans sa propre puissance pour lui-même, et t'armera de toutes parts de son amour et de sa puissance. Demeure dans son conseil, et il découvrira toutes les consultations de l'ennemi, il dissipera toutes les imaginations, et ne leur permettra pas de prendre place en toi, pourvu que tu lui obéisses. N'aime pas le monde, mais sois attentive à ce qui te tirerait à vivre dans la pure obéissance à celui qui est pur, et en demeurant dans la crainte pure, cela ôtera toutes les craintes serviles et ne te permettra de te conformer au monde en quoi que ce soit, mais tu seras préservé dans l'obéissance au Seigneur en ce qu'il requiert, car la crainte du Seigneur garde le cœur pur, elle te gardera pure et ouverte pour recevoir les enseignements du Père. Ô, tiens ferme dans la liberté par laquelle Christ t'a affranchi, et cela te préservera des enchevêtrements du monde, et ta préservation sera de demeurer dans le conseil du Seigneur, qui est le puissant conseiller, le prince de paix éternel, qui te conduira et te guidera dans le royaume éternel du Père, où il y a paix et joie, repos, tranquillité et assurance pour toujours. Abandonne-toi entièrement au Seigneur, qui te préservera dans la fidélité et la pureté, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant éternel te garde, toi et tous nos chers amis, dans la puissance de son amour et dans la puissance de sa vérité, parfait dans sa volonté, afin que vous croissiez de force en force et soyez établis dans la vérité éternelle, et que lui seul soit glorifié, lui qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois, à qui soit gloire, honneur, louange et action de grâce au siècle des siècles. Amen. J'ai reçu ta lettre qui m'a beaucoup réjoui. Lorsque ta lettre, avec James et George, est arrivée, j'étais alors parti vers le Derbyshire, où j'ai rencontré une église rassemblée. J'ai été très occupé au service depuis que je vous ai quitté. Les amis sont très enhardis et courageux, eux qui ont subi ici une grande opposition et des persécutions, mais tout est à l'arrêt, l'ennemi est grandement réduit au silence, et le Seigneur poursuit sa propre œuvre, pour sa propre louange, à lui seul soit la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Mon cher amour dans le Seigneur se présente à vous tous, à ton fils Georges, à tes filles, et à tous ceux de tes domestiques dans la vérité de Dieu, et que le Seigneur les fasse tous croître dans la vérité, afin qu'ils soient exaltés parmi vous tous. Mes chers cœurs à tous, estimez l'amour et la miséricorde du Seigneur, et veillez chaque jour à votre croissance vers ce qui est éternel, et que l'amour et la puissance éternelle du Seigneur vous gardent tous dans la fidélité envers lui en ce que vous savez. Demeurez dans la croix, et la pureté croîtra. La voie la plus sûre est dans la croix, prenez la croix chaque jour, veillez à être guidé par ce qui contrarie vos propres volontés, et cela amènera en vous au jugement toute parole oiseuse, toute pensée et toute action. Ainsi le vieil homme sera crucifié avec ses affections et ses convoitises, et vous trouverez le Seigneur assis comme un affineur pour juger et ôter tout le vieux levain, la vieille nature, et ainsi l'homme nouveau sera relevé et Christ, la puissance de Dieu, régnera en justice en vous, lui qui est le roi des saints à lui seul. Amen. Bien que le juge Fell ne se soit pas ouvertement uni aux amis ni n'ait assisté à leur réunion, il était très favorable à leur vue et s'asseyait généralement dans une pièce attenante, où ils pouvaient entendre, sans paraître se joindre à leur culte. Des amis, en sa présence, parlant de la difficulté d'obtenir un lieu pour tenir leur réunion dans cette partie du pays, il leur offrit promptement et généreusement sa propre maison, disant « Vous pouvez vous réunir ici si vous le voulez », et avis ayant été donné, il y eut là une bonne grande réunion le premier jour suivant, qui fut la première tenue à Swarthmore, où une réunion fut établie et se maintint de 1652 à 1690. La pièce affectée à cet usage était la grande salle du rez-de-chaussée, à l'une des extrémités de laquelle, dans l'espace d'une fenêtre en baie, le plancher est surélevé de deux marches. C'est là, dit-on, que George Fox et celle qui devait plus tard devenir son épouse prenaient habituellement place, ainsi que les autres amis ministres lorsqu'ils étaient présents. De cette fenêtre, George Fox prêchait souvent au peuple rassemblé dans le verger adjacent, lorsqu'en raison de leur nombre, ils ne pouvaient se réunir à l'intérieur. La renommée de George Fox, se répandant avec sa doctrine, amenait généralement une grande foule à se rassembler pour l'entendre lorsqu'il visitait Swarthmore. Un jour, le juge Fell, rentrant chez lui et trouvant ses écuries remplies des chevaux de ses hôtes étrangers, se plaignit à sa femme de l'afflux considérable de nouveaux venus, disant que si cela continuait, ils seraient bientôt dépourvus et n'auraient plus de provisions pour eux-mêmes. Elle lui répondit aimablement que la charité n'appauvrit pas, et malgré toute cette consommation supplémentaire, elle croyait pleinement qu'à la fin de l'année ils n'auraient aucune raison de regretter leur hospitalité. Et il en fut ainsi, car la même année la récolte de foin fut si abondante qu'ils en eurent non seulement assez pour eux-mêmes, mais un grand surplus à vendre. L'exemple de cette excellente famille exerça sans doute une puissante influence sur l'esprit de beaucoup de ceux qui entrèrent dans le champ de son influence, les invitant à venir goûter et toucher par eux-mêmes la bonne parole de vie, dont ils étaient devenus participants en se soumettant avec obéissance aux exigences de la vérité. Plusieurs membres de leur maison devinrent des prédicateurs de justice en parole et en conduite, et furent des instruments pour détourner beaucoup de personnes des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Anthony Pearson, dans une lettre datée de 1653, décrit ainsi les impressions qu'une visite à Swarthmore produisit sur son esprit. Combien le Seigneur fut bon envers moi en me conduisant chez le juge Fell, pour voir les merveilles de sa puissance et de sa sagesse, une famille marchant dans la crainte du Seigneur, conversant chaque jour avec lui, crucifiée au monde et ne vivant que pour Dieu. Je fus confondu, toute ma connaissance et ma sagesse devinrent folie, ma bouche fut fermée, ma conscience convaincue. Et les secrets de mon cœur furent manifestés, et ce Seigneur fut découvert comme proche, que j'adorais dans l'ignorance. J'ai vu chez le juge Fell, et j'ai appris de cette précieuse âme, sa femme, en quelque mesure, ce que signifient ces choses que, auparavant, je tenais pour le débordement de cerveau étourdi. Cher cœur, ayez pitié et priez pour moi, et que toutes les obligations d'une amitié passée soient acquittées en vœu de bien pour l'âme du vieil ami de la famille, afin qu'il participe avec eux à votre possession céleste. À l'appui de cela se trouve le témoignage de William Caton, intime de la famille. Il dit « Oh l'amour qui en ce jour-là abondait parmi nous, surtout dans cette famille. Et oh la fraîcheur de la puissance du Seigneur Dieu, qui alors était parmi nous, et le zèle pour lui et pour sa vérité, la consolation et le rafraîchissement que nous avions de sa présence, la proximité et la tendresse qui régnaient parmi nous les uns envers les autres, les ouvertures et les révélations que nous avions alors. Mon cœur est touché d'en faire mémoire encore aujourd'hui. Et c'est ainsi que cette digne famille en vint à être si renommée dans la nation, et sa réputation se répandit beaucoup parmi les amis, et la puissance et la présence du Seigneur étant tant avec nous en ce lieu, ce fut comme un moyen d'amener beaucoup de personnes, même de loin, à y venir, de sorte qu'à un certain moment il y avait là des amis de 5 ou 6 comtés, ce qui contribuait à accroître mon rafraîchissement. Et d'autre part, j'étais chérie et encouragée dans la voie de la vie par mon amie entièrement bien-aimée, Margaret Fell, qui, comme une mère nourricière au cœur tendre, prenait soin de moi et se montrait aussi tendre envers moi que si j'avais été l'un de ses propres enfants. Oh, la bonté, l'estime et l'amitié qu'elle me témoigna ne devraient jamais être oubliées de moi. Margaret Fell poursuit, parlant de son mari, « Il vécut environ 6 ans après que j'eus été convaincue. Durant ce temps, il plut au Seigneur de le visiter par la maladie, au cours de laquelle il devint plus que d'ordinaire aimant et bienveillant envers nos amis appelés Quakers, ayant été un homme miséricordieux envers le peuple du Seigneur. Moi et beaucoup d'autres amis fûmes bien satisfaits que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'eût reçu à lui. Sa mort survint au 8e mois 1658, alors qu'il avait environ 60 ans, laissant un fils et 7 filles. Le fils s'appelait George, les filles, Margaret, Marie à John Rose, Sarah, à William Mead, Mary à Thomas Lowe, Susanna, à William Ingram, Rachel, à Daniel Abraham, Isabelle à Yeoman, puis à Abraham Maury et Bridget à John Drapé. Ces mariages eurent tous lieu après sa mort. John Rose subit de sévères persécutions en Nouvelle-Angleterre et, outre de nombreux fouets cruels, on lui coupa l'oreille droite. Il était originaire de la Barbade, puis s'établit près de Londres. William Mead fut le compagnon de William Penn au moment de leur persécution et du célèbre procès à El Old Bailey, connu de tous les lecteurs de l'histoire des amis. William Penn, parlant du juge Fell, dit « Étant un homme juste et sage, et voyant dans sa propre épouse et sa famille une pleine réfutation de toutes les clameurs populaires contre la voie de la vérité, il les protégea autant qu'il le pouvait, ouvrit largement ses portes et abandonna sa maison à sa femme et à ses amis, ne tenant aucun compte des reproches des ignorants ou des mal intentionnés, ce que je mentionne ici à son honneur et au sien. Cette maison fut, pendant quelques années au début, jusqu'à ce que la vérité ait ouvert sa voie dans les parties méridionales de l'île, un refuge éminent pour ce peuple. Alexandre Pock la console ainsi à la mort de son mari et rend témoignage à sa valeur, « Chère sœur, soyez consolée et rafraîchie. Bien qu'un soutien extérieur vous soit ôté, le Seigneur, je le sais, ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais. Votre maison n'est pas laissée déserte, mais le Dieu de Jacob sera votre refuge, et le Seigneur votre Créateur et votre époux. Ce n'est que tout récemment que j'ai appris le dépôt du corps de votre mari, et vraiment cela a d'abord attristé mon esprit, connaissant son cher amour et son tendre soin envers les agneaux du Seigneur. » Chapitre I 1658-1662 Lettre à Cromwell Lettre de A. Rick George Fox arrêté chez elle son récit de l'arrestation, va à Londres entretien avec le roi Charles I lettre et adresse au roi et au Parlement insurrection des hommes de la 5e monarchie sollicite et obtient la libération de G. Fox plusieurs lettres au roi, au duc d'York, etc. Visite le colonel, Hacker en prison lettre à ses enfants retourne à Londres nouvel entretien, avec le roi au sujet de l'emprisonnement des amis retourne chez elle lettre au roi lettre de Francis Haugill. Cette femme dévouée, peu après sa conviction, se sentit appelée à plaider la cause des persécutés et des opprimés devant les gouvernants du pays. Elle s'approcha sans crainte des monarques et des détenteurs du pouvoir, à diverses reprises au cours de sa vie, et leur exposa les souffrances des amis, expliqua leurs principes et, tant par la parole que par l'écrit, les avertit des conséquences susceptibles de suivre, que les justes jugements du Seigneur seraient contre ceux qui persécutaient autrui pour des raisons de conscience. Ses services en ce sens furent des plus persévérants et intrépides et montrèrent qu'elle était, en esprit et en courage, unie à son ami George Fox. Vers cette période, elle adressa 4 lettres au protecteur, Oliver Cromwell. Dans la seconde, elle rend témoignage au culte spirituel de Dieu, et à son jour puissant, et au fait qu'il enseigne lui-même son peuple, et s'élève contre tous les cultes formels extérieurs qui sont sans l'esprit de vérité, et contre leur renversement. Et contre toutes les formes sombres, et les ombres, et les faux couvertures sous lesquelles il s'était trouvé, l'adjurant en la présence de Dieu de ne pas céder aux hommes du monde, afin de faire des lois sur les consciences de ses serviteurs, et de se garder d'écouter de mauvais conseillers, qui feraient leur proie du peuple pour leurs propres fins, de peur qu'ils n'attirent sur lui culpabilité, fléau et malheur. Ambrose Rae Grant ainsi témoignage, à cette époque, de l'utilité et de la valeur de Margaret Fell dans l'église, Binscombe, dans le Surrey, 11 mois, 1659. Chère sœur, souvent vous êtes dans mon souvenir, dans mon travail et mes voyages dans la vigne du Seigneur, qui est devenue douce et agréable à parcourir, à la louange de Dieu. J'ai reçu vos lignes en le Hampshire, alors que j'étais dans une grande faiblesse du corps, par quoi j'ai été grandement fortifiée et rafraîchie, et véritablement, chère sœur, j'espère dans le Seigneur que par sa force nous serons quittes de tout, mais nos épreuves sont nombreuses, surtout parmi de faux frères, dont pour l'instant, je ne mettrai pas les détails sur le papier. Chère sœur, si ce n'était la puissance vivante de Dieu, elle ne pourrait jamais supporter tous les coups qui s'abattent contre elle, mais en tout cela nous ne défaillons pas, et nous pouvons vraiment dire, notre force est renouvelée chaque matin, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mon amour vous est cher, au-delà de ce qui peut être confié au papier, pour l'amour de la vérité et pour votre soin sur le troupeau de Dieu, pourquoi Dieu vous récompensera. Ainsi, avec mon cher amour pour tous vos chers enfants et domestiques dans la vérité, je demeure votre cher frère dans le travail de l'Évangile, Ambrose Rae en l'année 1660, George Fox fut arrêté dans sa maison et écroué à la prison de Lancaster. Gough, l'historien, rapporte que Margaret Fell, considérant l'entrée forcée et la perquisition de sa maison, ainsi que l'arrestation de son hôte, comme une violation de la liberté du sujet et une injure qui lui était faite, publia le bref récit suivant de son arrestation. À tous les magistrats, concernant l'arrestation injuste et l'emprisonnement de George Fox à Lancaster, j'informe donc les gouverneurs de cette nation que Henry Porté, maire de Lancaster, a envoyé à ma maison un mandat accompagné de 4 connétables, sans en avoir ni l'autorité ni l'ordre. Ils ont fouillé ma maison et y ont appréhendé George Fox, qui n'était coupable d'aucune infraction à une loi, ni d'aucun délit contre quiconque dans la nation. Ils l'ont fait conduire devant le dit Henry Porté, où l'on offrit de verser une caution, ce qu'il exigerait pour sa comparution, afin qu'il réponde à ce qui pourrait être porté contre lui. Mais lui, contrairement à la loi, s'il l'avait arrêté légalement, refusa d'accepter toute caution et le fit jeter en prison au secret. Après son incarcération, on demanda une copie du mandat d'écrou, qui ne doit être refusé à aucun prisonnier, afin qu'il puisse voir ce qui est porté contre lui, mais on la lui refusa. Il ne put en obtenir copie, on ne lui permit que d'en faire lecture, et tout ce qui y était imputé contre lui était absolument faux. Il n'était coupable d'aucune des charges qui figuraient, comme cela sera prouvé et manifesté à la nation. Que les gouverneurs y réfléchissent donc. Je suis concerné par cette affaire, puisqu'il a été appréhendé dans ma maison, et s'il est coupable, je le suis aussi, je demande donc que cela soit examiné. Elle prit, en outre, la résolution de se rendre à Londres pour solliciter la protection du roi et lui exposer les circonstances de l'emprisonnement de George Fox. Son récit se poursuit. En l'année 1660, le roi Charles y revint en Angleterre, et dans les 2 semaines qui suivirent, je fus poussé par le Seigneur à aller à Londres pour parler au roi au sujet de la vérité et de ce qui souffrait pour elle, car il y avait alors plusieurs centaines de nos amis en prison dans les 3 nations d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, où ils avaient été jetés par les pouvoirs précédents. Je parlai souvent au roi et lui écrivis beaucoup de papiers et de lettres, et beaucoup de livres furent remis par nos amis au Parlement, et un grand service fut rendu en ce temps-là, et ils furent pleinement informés de nos principes et de nos pratiques pacifiques. Je demeurai alors à Londres 1 an et 3 mois, rendant service au Seigneur, visitant les réunions des amis et remettant au roi et au conseil des papiers et des lettres chaque fois que l'occasion s'en présentait. Et j'écrivis et remis plusieurs fois des papiers et des lettres à chacun des membres de la famille, c'est-à-dire au roi, au duc d'York et de Gloucester, à la reine-mère, à la princesse d'Orange et à la reine de Bohême. Je fus poussé par le Seigneur à les visiter tous et à leur écrire. Je leur donnai beaucoup de livres et de papiers, et exposai devant eux nos principes et nos doctrines. Je désirais qu'ils nous laissent nous entretenir avec leurs prêtres, prédicateurs et docteurs, et que, s'ils pouvaient nous prouver dans l'erreur, qu'ils le manifestent, mais si nos principes et nos doctrines se trouvaient conformes à la doctrine du Christ, des apôtres et des saints des temps primitifs, alors qu'on nous laissa notre liberté. Mais nous ne pûmes jamais obtenir qu'aucun d'eux rencontrât nos amis. Néanmoins, ils furent très tranquilles, et nous jouîmes d'une grande liberté, et eûmes nos réunions très paisiblement pendant le premier semestre après l'entrée du roi, jusqu'à ce que les hommes de la 5e monarchie soulèvent une insurrection et un tumulte dans la ville de Londres. Alors toutes nos réunions furent troublées et des amis arrêtés. Nous fûmes informés que le roi avait eu l'intention de nous donner la liberté si l'insurrection n'avait pas eu lieu. car à ce moment même, il y avait un ordre signé du roi et du conseil pour la liberté des Quakers, et au moment précis où il devait être mis sous presse, les hommes de la cinquième monarchie se levèrent, alors nos amis furent très durement traités et arrêtés généralement dans leurs réunions, jusqu'à ce que beaucoup de prisons dans tout le pays en soient remplies. Bien des fois, je me rendis auprès du roi à leur sujet, il me promettait toujours qu'il serait remis en liberté, nous avions plusieurs membres du conseil favorables à notre cause, et nous leur remîmes beaucoup de papiers. Et avec beaucoup de peine et d'assiduité, environ un quart d'année après qu'ils eurent d'abord emprisonné les amis, une proclamation générale du roi et du conseil fut accordée pour mettre les Quakers en liberté. Alors j'eus la liberté d'esprit de rentrer chez moi pour visiter mes enfants et ma famille. Le chef des hommes de la cinquième monarchie était Thomas Vénet, tonnelier de vin, qui, dans sa petite boutique de Colmont Street, excitait ses admirateurs par des attentes passionnées d'une cinquième monarchie universelle, sous le règne du roi Jésus sur la terre, et selon laquelle les saints devaient s'emparer du royaume. Pour introduire ce royaume imaginaire, ils sortirent de leur maison de réunion vers le parvis de l'église Saint-Paul, le dimanche 6 janvier 1661, avec environ 50 hommes bien armés, résolus à renverser le gouvernement en place ou à mourir en le tentant. Cette folle insurrection fournit à la cour un prétexte pour rompre la récente déclaration d'indulgence, moins de 3 mois après sa publication, Neil. Par les sollicitations de Margaret Fell et d'Anne Curti, dont le père avait subi la mort pour avoir auparavant tenté de ramener le roi, elles obtinrent alors un ordre pour le transfert de George Fox à Londres. Il y fut amené par habeas corpus devant la cour du banc du roi, où l'affaire fut renvoyée au roi et au conseil. Aucun accusateur ne se présentant pour témoigner contre lui, Fox fut honorablement libéré après 20 semaines d'emprisonnement. Dans ses lettres au roi Charles et au duc d'York et de Gloucester, peu après leur retour dans le royaume, Margaret Fell les avertit affectueusement, devant le Seigneur, le scrutateur des cœurs, de ne pas mépriser les offres de son amour, de peur qu'ils ne s'endurcissent. Elle souhaite qu'ils considèrent la bonté du Seigneur dans leurs diverses préservations et leur restauration hors de leurs troubles, dans la nation, le trône et le royaume désiré de leur père, et qu'ils ne s'attribuent pas la gloire et l'honneur à eux-mêmes, mais qu'ils laissent au Seigneur la gloire, lui qui les a restaurés sans effusion de sang ni perte de vie. Elle leur fit savoir comment Dieu avait dans la nation un peuple souffrant, qu'il a reconnu et reconnaîtra, et comment il a repris et renversé des pouvoirs à cause d'eux qu'il a bénis. Elle signifia aussi que Dieu avait conduit le roi au trône pour l'éprouver quant à ce que lui et ses associés feraient pour son peuple, les priant de ne pas oublier ses bienfaits et ses miséricordes envers eux, et de veiller à ce que leurs mains soient tenues loin du sang et de la persécution, car lorsque les innocents sont lésés et persécutés, Dieu plaidera pour eux et se tiendra à leur côté. Elle laissait entendre qu'elle avait été poussée par le Seigneur à leur écrire d'avance, afin qu'ils ne soient pas trouvés agissant contre Dieu et son peuple, les avertissant aussi de prendre garde à ce qu'ils laissent approcher d'eux, de peur d'être trahis par des dissimulateurs ou par des esprits malveillants et opportunistes qui se sont tournés vers tous les pouvoirs pour leurs propres fins. Dans sa seconde lettre au roi, elle souhaite qu'il prenne soin de la nation comme de sa propre famille, afin que chacun puisse jouir de son droit et de sa propriété, et de la liberté de conscience, puisque Dieu délivre son peuple d'entre les mains des oppresseurs, afin qu'il le serve dans la liberté de l'esprit, lui qui a entendu le cri des opprimés, et dont les oreilles sont ouvertes aux prières des innocents. Et qu'ainsi il serait bon pour le roi que ses oreilles ne se ferment pas, de peur que son cœur ne s'endurcisse, qu'il ne méprise pas ce que lui disent ceux qui ont un témoignage pour le Seigneur, et il leur rendra témoignage lorsqu'il viendra faire enquête pour le sang. Dans sa troisième lettre au roi, remise de sa propre main, à l'occasion de sa proclamation visant à faire juger ceux qui avaient été instruments dans la mort de son père, elle dit « Puisque Dieu l'a ramené dans cette nation par amour et miséricorde, sans effusion de sang ni vengeance, elle souhaite qu'il y réfléchisse et qu'il fasse miséricorde. Puisque le Seigneur a dit au miséricordieux, je me montrerai miséricordieux, mais à ceux qui sont sans miséricorde, je serai moi-même sans miséricorde. » Le conseillant de ne pas écouter ce qui voudrait l'exciter à la vengeance, ce qui n'est pas la volonté de Dieu ni bon pour le roi, dont la meilleure voie est de montrer miséricorde et pardon, et de remettre sa cour au Dieu du ciel, et que son cœur soit incliné vers l'amour et la miséricorde, et à accorder la liberté aux consciences délicates du peuple, là où est le trône de Dieu, il n'y a point de complot, ni de mauvaise intention, ni de conspiration secrète qui puisse jamais prévaloir contre lui. Elle adressa la lettre suivante au roi à l'occasion de la mort du duc de Gloucester, « Le Seigneur s'est approché de vous de très près. Oh ! Puissiez-vous y réfléchir et voir sa main, afin d'apprendre la justice d'agir avec droiture, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec le Seigneur pour que votre trône soit affermi, et puissiez-vous voir le Seigneur témoigner qu'il n'aime pas l'orgueil, la vanité et la vaine gloire, et que maintenant, au moment même de votre joie, il a changé en deuil. Que le Dieu de puissance vous donne de comprendre sa volonté et sa pensée, afin que vous fassiez de lui votre joie, lui qui tient dans sa main la vie et le souffle de tous les hommes. Durant son séjour à Londres, elle rendit visite au colonel Acker un jour ou deux avant son exécution, lui qui avait été l'un des juges du roi Charlier et qui était maintenant condamné pour le rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Il avait aussi été, quelques années auparavant, un persécuteur très violent de George Fox. Elle lui rappela ce qu'il avait autrefois fait contre les innocents. Il s'en souvint et dit qu'il savait bien à qui elle faisait allusion et qu'il en était tourmenté. On rapporte d'elle que, telle une mère tendre, sensible à l'épreuve et à la peine de ses chers enfants en raison de sa longue absence auprès d'eux et de sa famille, elle leur écrivit beaucoup de lettres pleines de tendresse et de consolation, pour les encourager dans la vérité et les rassurer dans le Seigneur quant à elle, excusant sa longue absence comme étant si profondément engagée dans sa crainte, pour décharger sa conscience et pour le bien de son peuple souffrant. Elle leur faisait comprendre combien il lui serait désirable de rentrer auprès de ses chers et bien-aimés enfants dès que le Seigneur jugerait bon de la dégager de cette longue et laborieuse assiduité en faveur de son peuple opprimé. La lettre suivante paraît être l'une de celles auxquelles il est fait allusion, Londres, le 25 du 10 mois, 1660. Mes agneaux et mes petits bien-aimés, mon amour est pour vous tous, et mes prières au Seigneur sont pour vous tous, afin que, dans son bras et sa puissance, vous soyez gardés dans le sein de son amour, pour y être nourris et chéris jusqu'à la vie éternelle. George Fox est maintenant libéré, béni soit le Seigneur Dieu, dont le bras et la puissance seuls l'ont fait. Après avoir comparu devant le juge qui l'avait fait demander, il comparut ensuite dans sa chambre devant le Lord Grand Juge d'Angleterre, et le lendemain il comparut devant eux tous en audience publique au banc du roi. Et tout cela après que le roi eut accordé un ordre pour le mettre en liberté, mais ils ne voulurent pas le relâcher avant qu'il eût comparu en tous ces lieux, pour voir si quelque chose pourrait être articulé contre lui. Cela rendit un grand service à la vérité. Je ne puis écrire à présent précisément le moment de mon retour, car je sens que je ne suis pas encore dégagé de ce lieu, j'attends encore la volonté et le bon plaisir du Seigneur, et qu'en son temps cela me soit manifesté. Puissiez-vous vous en contenter, car là est une paix éternelle, et là vous me jouirez. Je ne sais pas à quelle soudaineté le Seigneur peut me donner la liberté de rentrer, mais quand cela sera, je l'embrasserai avec amour. Faites-moi savoir des petits, comment ils vont tous, vous en dites peu lorsque vous écrivez. Mon désir est d'avoir des nouvelles de vous tous et de votre bien-être dans le Seigneur. Il se peut que vous ayez déjà appris que James Naylor a achevé sa vie naturelle et a déposé ce corps de terre à environ 60 milles de Londres. Ainsi rien de plus, sinon que mon amour dans le Seigneur Jésus est avec vous, et dès que le Seigneur me le permettra, je reviendrai. Que le bras éternel du Tout-Puissant soit avec vous. Margaret Fell, je demeurai chez moi environ 9 mois, puis je fus poussée par le Seigneur à aller de nouveau à Londres, ne sachant pas quelle affaire ou quel dessein m'y conduirait. À Warrington, je découvris une loi que le Parlement avait faite contre les Quakers pour avoir refusé de prêter serment. Et lorsque j'arrivai à Londres, j'appris que le roi était allé à la rencontre de la reine et devait l'épouser à Hampton Court. À ce moment-là, les réunions des amis à Londres étaient grandement troublées par des soldats, qui arrachaient les amis de leurs assemblées et les frappaient avec leurs mousquets et leurs épées, de sorte que plusieurs furent blessés et meurtris, et beaucoup furent jetés en prison, où nombre d'entre eux perdirent la vie. Tout cela fut fait à un peuple paisible, uniquement pour avoir adoré Dieu selon la persuasion de sa conscience. Je vis alors le roi et le duc d'York à Hampton Court, et je leur écrivis plusieurs lettres, leur faisant comprendre quel ouvrage désespéré et dangereux se faisait à Londres, et comment des soldats étaient entrés avec des mèches allumées et avaient tiré l'épée parmi les amis, tandis qu'ils se réunissaient dans la crainte et le tremblement du Seigneur pour l'adorer, et que s'ils n'arrêtaient pas cette cruelle persécution, il est fort probable que davantage de sang innocent serait versé, ce qui témoignerait contre leurs actes et pèserait sur eux et sur la. Quelques jours plus tard, ils battirent certains amis si cruellement au Bull and Mouse réunion que deux moururent des coups. Le roi me dit que ces soldats ne nous troublaient pas, ni ne le feraient, et il dit que les soldats de la cité n'étaient pas les siens et qu'ils feraient de ce qu'ils voudraient, et après quelque temps, ils furent plus modérés, et le roi me promit qu'il mettrait en liberté ceux qui étaient en prison, et lorsqu'il amena sa reine à Londres, il les mit en liberté. Puis je rentrai de nouveau chez moi, après être resté environ 4 mois à Londres et dans ses environs. Qui suit la substance de la lettre écrite par Margaret et présentée au roi Charlie à Hampton Court lors du renouvellement de la persécution en vertu de la loi, pour prévenir les méfaits et les dangers pouvant provenir de certaines personnes appelées Quakers, et d'autres refusant de prêter des serments légitimes, roi Charles, souvent le désir de mon cœur s'est élevé vers Dieu pour vous, afin que vous soyez préservés de persécuter les saints et le peuple de Dieu, qui a fait grâce et s'est montré patient tant qu'une certaine modération. Assurément, cette promesse que vous fîtes en vraie simplicité, comme je le crois, était alors dans votre cœur, que vous accorderiez la liberté aux consciences délicates, ce dont je suis assuré qu'il est écrit devant le Seigneur Dieu, et vous êtes lié envers lui dans votre conscience de l'accomplir. C'est pourquoi mon cœur est touché par le danger auquel vous vous exposez, voyant que des hommes sans pitié sont mis à l'œuvre pour venir dans les réunions du peuple de Dieu avec des épées, des pistolets et des mousquets, comme s'ils allaient contre des voleurs ou des ennemis déclarés. J'ai fortement à cœur, une fois encore, de vous avertir de prendre garde à ces choses, d'en jeter un regard en temps utile avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez fait une loi contre nous, pour quelle raison le Seigneur le sait, nous étant inoffensifs et innocents, et pleins de douceur envers vous, bien que nos souffrances aient été grandes, mais puisque vous avez fait une loi, il est déraisonnable que vous en dépassiez la sévérité. Ces choses, et bien d'autres, me sont imposées par le Seigneur afin de vous les exposer, vous à qui il a mis le pouvoir en main pour faire agir justice et équité dans le royaume, afin que vous ne provoquiez pas le Seigneur, c'est le désir de mon cœur, moi qui suis une véritable et fidèle amie de votre âme. Margaret Fell. La belle lettre suivante lui fut adressée à Londres par Francis Haugill, qui termina ensuite ses jours en prison, pour le témoignage de la vérité, Greyrigg le 29 du 9 mois, 1661. Chère Margaret, en celui qui est devenu pour nous un lieu de larges rivières et de torrents, la part de notre coupe et le lot de notre héritage, je te salue très affectueusement. Les jours d'autrefois ne sont pas oubliés de moi, ni les années passées, lorsque nous avons tous été amenés à boire à une même coupe et avons été baptisés dans la mort et les souffrances du Christ, et nous fûmes amenés à la boire volontairement, sachant que c'était notre part assignée par le Seigneur, que nous ne devions pas éviter, mais dont nous devions boire. Quoique cela nous fût pénible et douloureux, quand notre force était encore faible, Dieu pourtant, dans son amour et sa miséricorde infinie, nous fortifia pour porter, souffrir et renoncer à ce qui nous cachait l'immortalité et la vie. Il nous soutint dans ses bras et nous fit endurer avec patience les souffrances et la mort, afin que nous obtenions la résurrection des morts, ce qui fut en effet un temps béni, bien que, pour un moment, il semblât douloureux. Mais maintenant, ayant obtenu la résurrection des morts, étant baptisé dans la résurrection et dans la vie, une plus grande béatitude est connue, même des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données à goûter dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que comme nous avons souffert l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, nous soyons rendus capables de nous réjouir l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, et en lui seul, en qui sont toutes nos sources vives et de qui jaillissent notre joie, notre allégresse et notre consolation. Il a ouvert les sources du grand abîme et a fait jaillir la vie, par quoi ses petits sont rafraîchis, les jeunes hommes fortifiés, et les anciens et honorables confirmés et affermis. Que son nom soit saint et révéré à jamais, lui qui élève sa montagne glorieuse au-dessus de tout le sommet de la terre et fait de Jérusalem la louange, la gloire et l'admiration de toute la terre. Je puis te dire que je ne suis pas plus là qu'au premier jour où la faucille fut mise à la moisson, lorsque nous sortîmes en semant la semence pleurant et en larmes, mais voyant les gerbes rapportées à la maison, et des charges pleines dans la grange, et des prises abondantes tirées au filet, cela m'a fait regarder au-delà du découragement, béni soit le Seigneur. Je suis heureux que tu sois resté si longtemps dans cette ville, Londres, où nous avons eu maint fardeau et maint jour de lassitude, mais le fruit qui y est produit pour Dieu, abondamment, compense tout et me fait oublier le labeur. Je suis allé vers le nord en Northumberland, dans l'évêché, et le long de la mer de Lay, puis de retour à York. Vraiment, le jardin est pour la plupart très agréable et exhale une bonne odeur, maintenant que le vent du midi souffle sur lui. Adieu bien-aimé dans la Sainte Alliance de Vie, Francis Haugill. Chapitre I 1662-1668. Effectue une visite religieuse dans plusieurs comtés, rencontre George Fox, leur arrestation et leur emprisonnement au château de Lancaster, son procès, témoignage contre le serment frappé de prémunir et renvoyé en prison, lettre de sa fille, lettre à son gendre et à sa femme et effort infructueux pour obtenir sa libération, les difficultés et privations de son emprisonnement, lettre de remontrance. En l'année 1663, accompagnée de l'une de ses filles, Margaret Fell entreprit un voyage religieux d'environ 1000 miles, visitant les amis dans le Somersetshire, le Devonshire et le Dorsetshire jusqu'à Bristol, puis de là vers le Yorkshire, dans le Northumberland et le Westmoreland. Au cours de leur déplacement, elles rencontrèrent George Fox, qui les accompagna jusqu'à leur domicile. Peu après, il fut arrêté et emprisonné au château extérieur de Lancaster. Elle dit, environ un mois après, les mêmes juges de paix me firent demander de comparaître à Ulverston, et lorsque j'y arrivai, ils me posèrent plusieurs questions et semblèrent s'offenser de ce que je tenais une réunion dans ma maison, et ils dirent qu'ils me feraient prêter le serment d'allégeance. Je répondis qu'ils savaient que je ne pouvais jurer, et pourquoi me faire venir de ma propre maison, où je vaquais à mes affaires légitimes, pour me tendre un piège. Qu'avais-je fait? Ils dirent que si je ne tenais plus de réunion chez moi, ils ne me feraient pas prêter le serment. Je leur dis que je ne renierais ma foi et mes principes pour quoi que ce soit qu'ils puissent me faire, et tant qu'il plairait au Seigneur de me laisser une maison, je m'efforcerais d'y l'adorer. Ils firent donc lire le serment et me le proposèrent, et je le refusai, leur disant que je ne pouvais prêter aucun serment par motif de conscience, Christ Jésus l'ayant défendu. Ils rédigèrent alors un mandat d'écrou et me firent conduire prisonnière au château de Lancaster, et la George Fox et moi demeurâmes en prison jusqu'aux prochaines assises, puis ils nous inculpèrent en vertu du statut pour avoir refusé le serment d'allégeance, car ils nous le proposèrent à tous deux de nouveau aux assises, mais ils me dirent que si je ne tenais pas de réunion chez moi, je serais mis en liberté. Je répondis au juge que je préférais la prison en obéissant à Dieu plutôt que la liberté en obéissant aux hommes contre ma conscience. Ainsi, nous fûmes appelés plusieurs fois devant eux à ces assises, et les actes d'accusation furent retenus contre nous. Aux assises suivantes, nous fûmes jugés, et l'acte d'accusation de George Fox se trouva daté à tort, tant pour le jour du mois que pour l'année du règne du roi, de sorte qu'il fut annulé, mais le mien, ils ne voulurent pas permettre que les erreurs qui s'y trouvaient le rendent nul, bien qu'il y en eût plusieurs. Ils prononcèrent donc contre moi la sentence de prémunir, à savoir que je serais hors de la protection du roi, et que je perdrais au profit du roi tous mes biens meubles et immeubles, et que je serais emprisonné à vie. Mais le grand Dieu du ciel et de la terre soutint tellement mon esprit sous cette sentence sévère que je ne fus pas effrayé, et je donnai cette réponse au juge Turné, qui prononça cette sentence : « Bien que je sois hors de la protection du roi, je ne suis pas hors de la protection du Dieu Tout-Puissant. » Et ainsi je demeurai en prison 20 mois, avant d'obtenir du shérif assez de faveur pour aller dans ma propre maison, ce que je fis alors pour un peu de temps, puis je retournai en prison. Devant les juges, elle rendit ce témoignage clair et noble contre le serment et se justifia de toute cause d'offense. « Je suis ici aujourd'hui à cause de ma conscience, et non pour aucun mal ni tort fait à aucun homme, mais pour obéir à la doctrine et au commandement du Christ qui a dit dans les Écritures, « Dieu est esprit, et son culte est en esprit et en vérité, et pour tenir des réunions dans l'unité de cet esprit. » Or vous professez être chrétien, et vous reconnaissez les Écritures comme vraies, et c'est pour l'obéissance aux paroles claires de l'Écriture et pour le témoignage de ma conscience que je suis ici. Je dis ceci au sujet du serment, comme je l'ai déjà dit auparavant en ce lieu, Christ Jésus m'a commandé de ne jurer en aucune manière, et c'est là l'unique cause, et aucune autre, le juste juge du ciel et de la terre le sait, devant le trône de justice duquel vous devrez tous comparaître un jour. Son œil nous voit tous, et nous observe en ce moment même, et il entend et voit toutes nos paroles et nos actions. C'est pourquoi chacun doit être sérieux, car le lieu du jugement est grave. Je vous rends ici ce témoignage, là où l'œil du Seigneur nous voit tous, quant à la matière ou substance du serment, et à la fin pour laquelle il a été institué, j'en reconnais une partie et j'en nie l'autre. C'est-à-dire que je reconnais la vérité, la fidélité et l'obéissance au roi dans toutes ses demandes et tous ses commandements justes et légitimes. Je nie aussi tous les complots et machinations contre le roi, ainsi que toute suprématie papiste et toute conspiration. Je ne puis davantage transgresser contre le roi Charles en ces choses que je ne puis désobéir au commandement du Christ Jésus. Par la même puissance et en vertu de la même parole qui a commandé de ne jurer en aucune manière, je suis lié dans ma conscience de sorte que je ne puis ni comploter ni tramer contre le roi, ni lui faire, ni à aucun homme sur la terre, aucun tort. Je ne nie pas ce serment seulement parce que c'est le serment d'allégeance, mais je le nie parce que c'est un serment et parce que Christ Jésus a dit « Ne jurez en aucune manière, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, et quand bien même je pourrais gagner le monde entier en prêtant serment, je ne le pourrais pas, et quoi que j'ai à perdre aujourd'hui pour ne pas jurer, je suis prêt à l'offrir. » L'un des juges de paix observa « Madame Fell, vous pouvez en bonne conscience fournir une garantie de ne plus tenir de réunion chez vous, si vous ne pouvez prêter le serment. » Pouvez-vous me démontrer, répondit-elle, que je puis, avec une conscience sûre, prendre l'engagement de m'abstenir de réunion, par crainte de perdre ma liberté et mes biens? Ne me jugerez-vous pas, vous et tous ceux qui sont ici, que je l'ai fait pour sauver mes biens et ma liberté, et ne renierai-je pas ainsi mon témoignage, et cela ne souillerait-il pas ma conscience? Certains de ses amis, à Londres, firent de grands efforts pour empêcher que la sentence de prémunir ne fût prononcée contre elle, et quelques-uns de ses enfants s'adressèrent au roi en sa faveur, mais sans aucun effet. Ce qui suit est une lettre de l'une de ses filles sur le sujet, Mylène de Green, près de Londres, le 27 du 4 mois, 1664. Mère chérie et au cœur tendre, mon devoir et mon très cher amour vous sont librement donnés et rappelés, comme aussi mon très cher amour va à notre cher George Fox. C'est principalement pour vous faire savoir qu'Oui et ma sœur et moi sommes allés à Whitehall, où nous avons parlé au roi et lui avons dit que, s'il voulait bien signifier quelque chose au juge avant qu'il ne parte en tournée, afin de vous relâcher, autrement il serait trop tard, car le temps approchait de très près des assises. Il dit qu'il vous relâcherait si nous promettions que vous n'iriez pas aux réunions. Ma sœur dit que nous ne pouvions prendre un tel engagement, car la réunion se tenait depuis de nombreuses années et n'avait jamais fait aucun mal. Il dit, votre mère ne peut-elle pas rester dans sa propre famille, puisqu'elle peut avoir 5 personnes présentes, mais il faut qu'elle tienne de telles réunions tumultueuses. Nous avons dit qu'elle n'avait point de telles réunions, ce ne sont que ses voisins qui viennent. Le roi dit qu'il y avait quelques Quakers dans le dernier complot. Ma sœur dit que cela ne pouvait être prouvé. Il dit qu'il avait des lettres à ce sujet et leur nom. Alors Chiffin, l'un des pages, nous dit de revenir le 4e jour, et nous avons l'intention d'y aller demain. J'y fus environ une semaine plus tard et dis au roi que, les assises approchant désormais de très près, s'il ne faisait rien pour vous, il vous ferait tomber sous une prémunire et prendrait vos biens à vous et à vos enfants, et je le priai d'y réfléchir. Il fut alors très affectueux avec moi et dit qu'il y réfléchirait. Et il dit, ils ne lui prendront pas ses biens, il me prit la main dès qu'il s'approcha de moi. Je parlai aussi au prince Rupert et le priai de rappeler cela au roi. Il dit qu'il ferait ce qu'il pourrait et alla alors vers le roi pour lui en parler. Le prince Rupert a toujours été très bienveillant envers les amis et a souvent parlé au roi de vous. Ma sœur renouvelle le souvenir de tout son amour pour vous et pour notre cher George Fox, ainsi que le fait aussi mon frère. Je suppose que les sœurs Isabelle et Sarah seront parties. Souvenez-vous de moi auprès des sœurs Susanna et Rachel. Je suis votre fille dévouée et obéissante, Mary Fell. La lettre suivante, écrite par Margaret Fell lorsqu'elle était en prison, à son gendre John Roux et à son épouse, après qu'elle eût été frappée de prémunir, montre que, ayant été profondément instruite à l'école du Christ et fortifiée par lui, elle avait appris, comme l'apôtre Paul, à être contente en quelque état qu'elle se trouvât. Château de Lancaster, le 1er du 10 mois, 1664. Comme je vous l'ai souvent dit, consentez à être contrarié, c'est la voie pour plaire au Seigneur et le suivre dans sa volonté et sa voie propre, dont la voie est la meilleure. Que rien n'entre dans votre esprit au sujet de quoi que ce soit me concernant, car je suis bien satisfaite dans l'œuvre du Seigneur. Je sais que votre soin et votre tendresse envers les amis n'ont pas fait défaut, soyez donc tous satisfaits dans la volonté du Seigneur Dieu. J'espère dans le Seigneur que vous êtes tous ensemble, quelque chemin que ceci vous parvienne. Soyez tous satisfaits et contents de la volonté du Seigneur, que ni murmure ni plainte n'entrent dans aucun de vos esprits, et que la tristesse ne remplisse pas vos cœurs, car nous avons tous sujet de nous réjouir toujours dans le Seigneur, et moi plus que tous. Le colonel Kirby fait renouveler et resserrer de plus en plus nos chaînes, et ils enferment George Fox sous prétexte d'un ordre qui devrait venir de Londres. Faites envoyer à Gilbert Lattay cette lettre ci-jointe de George Fox, afin que George Whitehead et eux en tirent ce qu'ils jugeront convenable. Margaret Fell par la suite, quelques tentatives furent faites pour obtenir sa libération, ou du moins un adoucissement des rigueurs de son emprisonnement, mais sans meilleur succès. Gilbert Lattay, dans l'une de ses lettres, rendant compte d'un entretien qu'il eut avec Lord Daubigny en sa faveur, dit « que ni le roi ni le chancelier ne feraient quoi que ce soit pour nous. Et nul homme ne pouvait être entendu pour parler en notre faveur. Alors je lui parlai de l'injustice de votre emprisonnement, de la mauvaise qualité du jury, et du fait que cela était contraire à la loi, et que vous ne désiriez rien d'autre qu'une prison convenable, et que les voleurs et les meurtriers avaient plus de liberté que vous, et que vous étiez enfermé dans une mauvaise chambre, et que les amis n'étaient pas autorisés à venir vous parler, et je lui dis que j'en avais un mémoire, et le priai de le transmettre. Il me dit qu'il en était désolé de tout son cœur, mais qu'il ne me dirait pas de mensonge, il était sûr que rien ne pouvait être fait, et il croyait qu'il le faisait exprès pour nous tourmenter. Je le quittai donc, car il disait ne rien pouvoir faire, puisque tout le clergé était contre nous et qu'absolument rien ne pouvait être fait, et il ne voulait en aucune manière se mêler du papier. J'étais donc bien aise de le quitter, Gow, l'historien, remarque. Emprisonnement aussi rigoureux que celui auquel ces personnes, en particulier George Fox et Margaret Fell, furent soumises dans des chambres enfumées, en un si mauvais état que la pluie entrait en abondance, était plus que suffisant comme châtiment pour de petits criminels, et constituait une preuve de la malveillance insensible de leurs persécuteurs, qui exposèrent inutilement Margaret Fell en particulier à de telles épreuves, elle, femme de fortune, veuve d'un juge et d'un homme de considération dans le pays, habituée aux commodités de sa... Mais toutes les difficultés qu'elle endura, arrachée arbitrairement à sa maison et à sa famille, sans cause ni accusation, et précipitée dans cette geôle lugubre, ne suffirent pas à satisfaire l'inimitié sans fondement de ses magistrats, jusqu'à ce qu'ils aillent au bout de ce qu'ils pouvaient faire, en la poursuivant jusqu'à la prémunir, réalisant le proverbe « summum jus summa injuria », l'exécution d'une loi pervertie est une injure accumulée. Elle exposa instamment au roi l'injustice de la loi autorisant le bannissement des amis, lui rappelant son ancien entretien avec lui et les rigueurs de son propre emprisonnement, dans une lettre qui lui était adressée, dont on insère ici quelques extraits, « De ma prison au château de Lancaster le 6 jour du 6 mois 1666, roi Charles, je vous prie de lire ceci, ce qui peut être pour votre satisfaction et votre profit. dans la crainte du Seigneur Dieu, tenez-vous immobile et considérez ce que vous et les vôtres avez fait pendant ces 6 années, depuis que le Seigneur vous a introduit paisiblement dans ce royaume et vous a fait gouvernant de ce peuple. L'œil juste du Tout-Puissant a été sur vous et a vu toutes vos œuvres et actions. Quelles lois avez-vous faites ou changées, sinon celles qui ont imposé oppression et servitude aux consciences du peuple de Dieu, avec une peine qui n'est pas moindre que le bannissement hors de son pays natal? Le plus grand crime que vous pouviez trouver chez le peuple de Dieu était qu'il obéissait et adorait Christ Jésus, de sorte que le coup le plus dur de votre justice s'est exercé sur ce que vous teniez pour délinquant du fait même qu'il adorait Dieu, au point que plusieurs de vos juges du pays ont dit à plusieurs reprises, en audience publique, à quiconque avouait se réunir pour adorer le Seigneur Dieu, que cela suffisait comme crime pour procéder au bannissement. Lorsqu'on demanda, en audience publique, s'il était désormais devenu une transgression ou un crime en Angleterre d'adorer Dieu, celui qui était alors grand juge d'Angleterre répondit, « Oui, oui, oh. Merveilleux, que cela soit consigné dans les chroniques d'Angleterre pour les âges à venir, afin que tous les magistrats tremblent et craignent d'affronter ainsi le Tout-Puissant, à moins qu'ils n'osent dire qu'ils sont plus forts que lui. Tout cela s'est fait sans qu'aucune juste cause ait jamais été donnée par ce peuple, qui était l'objet de cette loi, de sorte que des hommes n'ayant, ne fût-ce que la moindre mesure de justice et d'équité n'auraient jamais pu aller jusqu'à infliger un tel degré de châtiment sans quelque fondement légitime. Tout ce qui fut jamais allégué ne fut que suspicion, ce qui ne peut trouver de parallèle, être poursuivi jusqu'à un tel degré de souffrance sans qu'aucun juste fondement ait été donné, bien qu'on ait continuellement cherché et guetté l'occasion, sans jamais la trouver, mais le Seigneur a préservé son peuple innocent et inoffensif. Et c'est pourquoi il s'est engagé à plaider leur cause, laquelle est entièrement remise et confiée en sa main. Je vous prie aussi de considérer sérieusement, dans la crainte du Seigneur, quels effets et quels fruits ces choses ont produits. Je crois que cela a conduit des centaines du peuple de Dieu à la tombe, cela a aussi fait passer ce royaume et ses gouvernants pour cruels aux yeux de tous les peuples, tant à l'intérieur du pays que dans les autres nations, outre que la culpabilité du sang innocent pèse sur ce royaume. Depuis ce temps-là, le Seigneur, dans ses jugements, a enlevé plusieurs milliers de ses habitants par ses deux jugements, la peste et l'épée. Avant que tout cela n'eût lieu, lorsque vous êtes entrés pour la première fois dans ce royaume, le Seigneur m'a envoyé auprès de vous pour vous informer fidèlement de l'état et de la condition de notre peuple. Et lorsque je me présentais devant vous, au roi, je vous dis que j'étais venu vers vous au nom d'un peuple innocent, inoffensif et pacifique, parole que je scellerais alors et depuis toujours, et que je scellerais encore aujourd'hui de mon sang, si l'on m'y contraignait. Votre réponse fut, s'ils sont pacifiques, ils seront protégés. Je vous ai également écrit à plusieurs reprises au sujet de notre foi et de nos principes. Nous ne pouvions prêter serment par scrupule de conscience, nous ne pouvions non plus prendre les armes, ni conspirer, ni tramer de faire du tort ou du mal à qui que ce soit, encore moins au roi. Je vous ai aussi dit que nous devions adorer Dieu, car Dieu l'exigeait de nous. Nous vous avons pareillement remis plusieurs de nos livres, qui contenaient notre foi, nos principes et notre doctrine, afin que l'on puisse nous éprouver à l'aune des Écritures de vérité, que vous professez tous, pour voir si nos principes étaient erronés ou non. Et dans ce but, nous avons donné nos livres au roi et au parlement, ainsi qu'aux évêques et aux ministres, tant ecclésiastiques que civils. Tout cela, et bien davantage, je vous l'ai écrit et je vous en ai averti, je puis le dire en vérité dans la crainte du Seigneur, avec beaucoup d'amour et de tendresse envers vous. À présent je puis vous dire, pour ces choses, vous m'avez gardé en prison 3 longs hivers, dans un lieu impropre à y faire coucher des gens, tantôt à cause du vent, des tempêtes et de la pluie, tantôt à cause de la fumée, de sorte que je ne suis en vie que par la puissance et la bonté de Dieu, qui ont été avec moi. J'ai été retenu 1 an et 7 mois dans cette prison avant qu'on me permît de revoir la maison qui était la mienne, ou mes enfants, ou ma famille, sauf lorsqu'ils venaient jusqu'à moi en traversant de sables dangereux, au cœur du froid de l'hiver, au péril de leur vie. Mais depuis les dernières assises, j'ai reçu un peu plus d'égard de ce shérif que jadis de la part d'autres. En tout cela, je suis très satisfaite, et je loue le Seigneur, qui me juge digne de souffrir pour son nom. Or, après toutes mes souffrances, dans le même amour que celui avec lequel je vous ai visité au commencement, je vous désire encore une fois de craindre le Seigneur Dieu, par qui les rois règnent et les princes décrètent la justice, lui qui élève l'un et abaisse l'autre, selon son bon plaisir. Que la culpabilité et le fardeau de la violation de cette parole que vous avez donnée à Breda ne pèsent pas sur votre conscience, mais, comme vous l'avez promis lorsque vous étiez dans la détresse, et que vous l'avez ensuite renouvelé maintes fois, de donner la liberté aux consciences délicates, dans la crainte du Seigneur accomplissez-le et purgez-en votre conscience. N'écoutez pas de mauvais conseillers qui vous en ont empêché tout ce temps, car ils ne porteront aucun de vos fardeaux pour vous, lorsque le Seigneur plaidera contre vous pour rupture d'alliance avec lui et avec son peuple. Je sais que vous avez souvent eu à cœur de l'accomplir, et vous avez vu quel fruit a produit son défaut. Ainsi, si vous aimez votre paix et votre consolation éternelle avec le Seigneur, éprouvez ce que son accomplissement produira, et vous verrez par là que vous avez écouté de mauvais conseillers. Et tout homme mortel n'a qu'un instant dans cette vie, soit pour servir, craindre et honorer le Seigneur, et recevoir ainsi miséricorde de lui, soit pour transgresser, pécher, désobéir, le déshonorer, et recevoir le jugement de la misère éternelle. Ainsi nul d'entre vous ne sait combien son jour sera long ou court, ne craignez donc pas l'homme qui peut tuer le corps, mais craignez le Seigneur qui peut tuer le corps et l'âme, puis jeter l'âme et le corps en enfer, oui, je vous le dis, craignez-le. De la part d'un véritable ami de toutes vos âmes, bien que victime de vos actes, et le désir de mon cœur est que vous preniez ces choses en considération à temps, avant qu'il ne soit trop tard, et que vous ouvriez les portes des prisons, et laissiez l'innocent aller libre, et cela ôtera de dessus vous une part du fardeau et de la culpabilité, de peur que la porte de la miséricorde ne soit fermée contre vous. Margaret Fell, le château de Lancaster, la prison de Margaret Fell, dans sa forme actuelle, fut fondée par John of Gaunt, duc de Lancaster, au XIe siècle. Ce château et son prédécesseur ont été des places fortes remarquables, célèbres dans l'histoire britannique depuis l'époque des Romains jusqu'au jour de Cromwell et du prétendant. Un auteur récent décrit ainsi le château et la pièce occupée par George Fox. Celui qui pénètre dans l'enceinte du château s'étonnera du genre de vie que roi et prince durent mener à l'époque de sa construction. On y trouve les mêmes pièces de John of Gaunt, visitées parfois par son père, édoirier de petites salles, imposantes, solides, avec peu de fenêtres sur l'extérieur, et celles-ci réduites aux plus petites dimensions possibles, fort propres à servir de prison, comme elles le sont devenues par la suite. La chambre de Fox se trouvait au cachot, et la fenêtre de ce qui fut sa demeure durant de nombreux longs mois, sombre et lugubre, se distingue au-dessus d'une grande partie de l'ancienne ville. C'était manifestement, à une époque, une pièce d'une taille considérable, mais du temps de Fox, elle était vieille et en ruine. Il pouvait à peine traverser sa chambre tant le plancher était délabré. La fumée, qui venait des autres prisons, était si épaisse que parfois une chandelle allumée était à peine visible, et il courait un danger imminent d'étouffer. Et le geôlier ne se laissait persuader qu'avec peine de déverrouiller l'une des portes supérieures afin de laisser sortir la fumée. Par temps de pluie, l'eau tombait sur son lit. Les incommodités de sa prison affectèrent Fox à tel point, durant un hiver froid et prolongé, que son corps enfla et que ses membres s'engourdirent. Lorsqu'on le fit comparaître aux assises de mars 1665, il était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout ou bouger. Les amis de Fox dans ce voisinage ne furent pas non plus épargnés. Nombre de ses adeptes, dont Margaret Fell, chez qui il avait été appréhendé, furent également enfermés dans le château, où il existe une pièce qu'on appelle encore la chambre des Quakers, parce qu'elle fut le théâtre des souffrances de beaucoup de ces chrétiens opprimés et non résistants. Après avoir enduré une détention d'environ 4 ans, Margaret Fell fut enfin remis en liberté par un ordre du roi et du conseil, en l'année 1668. Note à une époque, il y eut 4500 amis en prison en Angleterre et au Pays de Galles. En 1662, 20 moururent dans différentes prisons de Londres, et 7 autres après leur libération, des suites de mauvais traitements. En 1664, 25 moururent, et en 1665, 52 de plus. Le nombre de ceux qui périrent ainsi dans tout le royaume s'éleva à 869. Pour un récit complet des cruautés exercées contre les premiers amis, le lecteur est renvoyé à 2 volumes, une folio intitulée « Bess's Sufferings », chapitre Yves 1668-1690. Visite des amis emprisonnés, son mariage avec George Fox à Bristol, de nouveau emprisonné en vertu de l'ancien prémunir, son mari et 2 de ses enfants obtiennent un ordre de mis en liberté qui est ignoré. Elle obtient une décharge en bonne et due forme sous le grand sceau Ladélian. Elle et ses biens du prémunir se rendent à Londres pour dire adieu à son mari, qui part pour l'Amérique. Son retour et son emprisonnement à la prison de Worcester, il est frappé de prémunir ses efforts en sa faveur, sa libération et retour à son. Peu après sa libération, elle fut poussée par le Seigneur à entreprendre un long voyage à travers plusieurs comtés d'Angleterre, visitant la plupart des amis emprisonnés dans le pays et passant plusieurs semaines à Londres et à Bristol. C'est à son retour de cette visite qu'elle rencontra de nouveau George Fox, et elle remarque « C'était 11 ans après le décès de mon premier mari, et George Fox, étant alors revenu d'une visite aux amis en Irlande, déclara à Bristol son intention de m'épouser. C'est là aussi que notre mariage fut célébré, lors d'une assemblée publique de nombreux amis qui furent nos témoins. » George Fox, dans son journal, donne le récit suivant de son mariage. Avant d'y procéder, Il veilla à ce que les droits de ses enfants ne soient pas lésés et obtint leur plein consentement. Car, disait-il, je voulais que tout se fasse avec clarté, car je ne cherchais aucun avantage pour moi-même. Après cette réunion dans le Gloucestershire, nous voyageâmes jusqu'à Bristol, où je rencontrai Margaret Fell, qui était venue rendre visite à sa fille Isabelle Yeoman. Le Seigneur m'avait fait voir, un assez long temps auparavant, que je devais prendre Margaret Fell pour épouse, et lorsque je lui en parlai pour la première fois, elle en reçut la réponse de la vie de la part de Dieu. Mais bien que le Seigneur m'eût révélé cela, je n'avais pas encore reçu de lui l'ordre de l'accomplir alors. Je laissai donc la chose en suspense et je poursuivis l'œuvre et le service du Seigneur, selon qu'il me conduisait, voyageant en tous sens dans ce pays et en Irlande. Mais maintenant, étant à Bristol et y trouvant Margaret Fell, il s'ouvrit en moi, de la part du Seigneur, que la chose devait s'accomplir. Après en avoir discuté ensemble, je lui dis que, si elle était aussi satisfaite de l'accomplir à présent, elle devait d'abord faire venir ses enfants, ce qu'elle fit. Lorsque le reste de ses filles fut arrivé, je demandai à celles-ci et à ses gendres s'ils avaient quelque chose contre, ou pour, le projet souhaitant qu'ils s'expriment, et tous, chacun pour soi, manifestèrent leur satisfaction à l'égard de la proposition. Je demandai alors à Margaret si elle avait exécuté la volonté de son mari à l'égard de ses enfants. Elle répondit que les enfants savaient qu'elle l'avait fait. Alors je leur demandai s'ils ne subiraient aucune perte si leur mère se remariait. Et je demandai à Margaret si elle avait fait quelque chose qui y changeât quoi que ce soit, auquel cas elle pourrait en parler aux enfants. Les enfants dirent qu'elle leur en avait rendu compte et me prièrent de ne plus en parler. Je leur dis que j'étais franc et que je voulais que tout se fasse avec clarté, car je ne cherchais aucun avantage extérieur pour moi-même. Ainsi, notre intention de mariage fut présentée aux amis, en privé comme en public, à leur entière satisfaction, beaucoup en rendirent témoignage car cela venait de Dieu. Ensuite, une réunion étant fixée pour le mariage dans la maison de réunion publique de Broadmead, à Bristol, nous nous prîmes l'un l'autre pour époux, le Seigneur nous unissant dans l'honorable mariage, dans l'alliance éternelle et la semence immortelle de vie. Lors de cette union, des témoignages vivants et pénétrants furent exprimés par les amis, comme ils y étaient poussés par la puissance céleste qui nous avait unis. Puis un certificat, relatant la procédure et le mariage, fut lu ouvertement et signé par les parents, et par la plupart des anciens amis de cette ville, ainsi que par beaucoup d'autres de diverses régions du pays. Note en confirmation de cela, et pour montrer la justice et la conscience scrupuleuse qui caractérisaient George Fox en matière de bien, ainsi que le fait que ses opinions étaient en avance sur celles qui prévalaient alors sur ce sujet, les circonstances suivantes, rapportées dans son journal, serviront d'illustration. Poursuivi pour les dîmes sur les biens de son épouse à Swarthmoor, William Mead, son gendre, comparut devant le tribunal. Alors, dit-il, William Mead dit au juge que je m'étais engagé à ne jamais me mêler des biens de ma femme. Les juges pouvaient à peine croire qu'un homme pût faire cela, il leur montra alors l'écrit portant ma main et mon sceau, ce dont ils s'étonnèrent. Ce qui suit est une copie de son certificat de mariage. Ceci est pour signifier à tous que cela peut concerner que, le 18e jour du 8e mois de l'an 1669, George Fox et Margaret Fell ont proposé leur intention de s'unir dans l'honorable mariage, dans l'alliance de Dieu, lors des réunions des hommes à Broadmead, dans la cité de Bristol, après avoir auparavant fait mention de cette intention à plusieurs amis, à l'appui de quoi plusieurs témoignages furent rendus, tant parlés. De même, lors d'une autre réunion d'hommes et de femmes, au lieu susmentionné, le 21e jour du mois et de l'année susmentionnée, les dits George Fox et Margaret Fell publièrent de nouveau leur intention de s'unir dans l'honorable mariage, dans l'alliance de Dieu, et là encore, de nombreux témoignages vivants furent rendus par les parents et amis alors présents, hommes et femmes. Les mêmes intentions de mariage ayant encore été publiées par Denny Hollister dans notre lieu de réunion publique susmentionné, le 22e jour du mois et de l'année susmentionnée, un témoignage public fut de nouveau rendu, attestant que cela venait de Dieu qui l'avait accompli. Pour l'accomplissement entier de la proposition susmentionnée et de l'intention approuvée, lors d'une assemblée publique d'amis, hommes et femmes, expressément fixée pour cette même chose, au lieu susmentionné, et le 27e jour du mois et de l'année susmentionnée, selon la loi et l'ordonnance de Dieu, et l'exemple et le bon ordre de son peuple, mentionnés dans les Écritures de vérité, qui se prenaient l'un l'autre devant témoins et devant les anciens du peuple, comme Laban fixa une assemblée au mariage de Jacob, et comme une assemblée. George Fox déclara solennellement, en la présence de Dieu et de nous, son peuple, qu'il prenait Margaret Fell, dans la puissance et l'alliance éternelle de Dieu, qui sont d'éternité en éternité, et dans l'honorable mariage, pour être son épouse et sa femme. De même, Margaret déclara solennellement que, dans la puissance éternelle du Dieu Tout-Puissant, et dans la parole immuable, et en la présence de Dieu, de ses anges et de sa sainte assemblée, elle prenait George Fox pour être son mari. À ce mariage, de nombreux témoignages vivants furent rendus, dans le sentiment de la puissance et de la présence du Dieu vivant manifesté dans l'Assemblée. Et de cela, nous, dont les noms sont ici souscrits, sommes témoins. Signé par 92 amis, hommes et femmes, Free and Review, vol 1P270. Son récit se poursuit. Peu après mon retour à la maison, il arriva un autre ordre pour me jeter de nouveau en prison, et le shérif du Lancashire envoya son huissier, me tira de ma propre maison et me fit conduire à la prison du château de Lancaster, où je demeurai une année entière, et pendant la plus grande partie de ce temps, j'étais malade et faible. Et au bout d'un certain temps, mon mari s'efforça de me faire sortir de prison, et une décharge fut enfin obtenue sous le grand sceau, et je fus remise en liberté. Partie y suite. Cliquez ici. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.